C'était un chant en l'honneur de notre frère Inoussa Savadogo qui est parmi nous. Si tu veux t'avancer, mon frère, Inoussa Savadogo. Sois béni. Inoussa Savadogo, c'est un homme de Dieu extraordinaire qui est mon ami depuis 16 ans maintenant. Vous n'allez pas le croire, c'est le frère de Nicolas Savadogo. mais c'est deux personnes très différentes. Et heureusement, parce que un Nicolas, il en faut qu'un, ça suffit. Hein. Bonjour Nicolas, Dieu te bénisse. Inoussa, c'est formidable. C'est un homme gentil, serviable, un vrai chrétien comme on les aime. Et il m'a interprété très souvent. Par exemple, quand nous étions à Fada dernièrement et que nous avons chassé
les démons
et tout ça, les démons sont sortis, on a vu c'est une partie.
Les malades qui sont guéris.
Les malades guéris. On a vu une petite fille qui avait un esprit de surdité en elle. Quand on a chassé le démon au nom de Jésus, il est sorti. Elle a commencé à entendre, mais elle ne pouvait pas parler.
Ah oui.
Mais depuis le mois de mai, j'ai reçu des nouvelles de Foukari, le directeur de l'école là-bas, qui m'a dit maintenant elle a appris à parler, elle parle parfaitement. Alors ceux qui disent oui, les miracles de Janton, gna 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 gna. Oui, bon, voilà. Gloire à Dieu. Amen.
Amen.
Alors vas-y mon frère.
Ok. Merci beaucoup, merci. Ok, alléluia.
Amen.
Ok, c'est une grâce, c'est une très grande joie pour moi d'être parmi vous. Je vous signale premièrement que c'est la première fois que je viens en Europe. Voilà, donc sincèrement dit, ça me fait plaisir. Donc que Dieu vous bénisse.
Amen.
Que Dieu vous bénisse.
Merci.
C'est nous en Afrique, c'est comme ça, on aime dire Dieu vous bénisse. Mm. Mais c'est pas Dieu vous blesse, c'est Dieu vous bénisse. Il y a une dame qu'on a donné de la nourriture, il a remercié, et après elle a dépassé et dit Dieu vous blesse. Mais sur moi, c'est Dieu vous bénisse. Voilà. Et depuis 16 ans, Michel vient en Afrique, on tourne ensemble, on fait l'œuvre de Dieu. On fait l'évangélisation, on prie pour les malades et des fois il fait de l'aide humanitaire. Donc il paye du riz, il donne du maïs, du mil à ceux qui sont pauvres. Et vraiment c'était une grande évangélisation. Parce que chez nous en Afrique, vous savez, quand tu as faim, même si tu écoutes la parole de Dieu, ça va rentrer ici et puis après ça va sortir ici. Donc il faisait l'évangélisation en dehors. Et au dedans aussi. Voilà. Est-ce que vous comprenez?
Oui.
Voilà. Donc, en ce moment, moi, j'étais avec les baffles, les fils. Et chaque fois quand on arrive dans une église pour faire l'évangélisation, et je les laisse causer avec les pasteurs. Et puis, moi, je parle, j'installe le matériel. Et dès que c'est prêt, ils viennent, ils commencent à faire l'évangélisation. Et après, maintenant, si c'est fini, je ramasse. Et c'était comme ça. Et après, j'ai commencé à le conduire. Donc, je le conduis. Et après, j'installe le matériel. Une troisième fois encore, je le conduis, j'installe le matériel et je l'interprète.
Wow.
Vous voyez que vouloir... c'est pouvoir.
Amen.
Et le pouvoir, c'est la réussite.
Oui.
Vouloir, pouvoir, réussite.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc,
amen.
Il y a eu des moments, quand Michel vient, on tourne, après son départ, souvent, je tombe malade. Parce qu'on a beaucoup tourné.
Mm-hmm.
Donc, pour conduire, vous savez, nos routes, ce n'est pas comme ici. C'est, souvent même, tu peux prendre une route à 300 km. Il n'y a pas de goudron. C'est la poussière. Souvent, on est fatigué. Donc, pour conduire, et puis arriver, je vais installer le matériel. Et après, je vais interpréter. Donc, ça me fait mal. À un moment donné, j'ai dit, est-ce que je ne vais pas abandonner? Donc, j'ai dit, mais pourquoi? Jésus, il était sur cette terre. Il a vu plus que ça. Mais il est venu à cause de nous. Pourquoi je vais le laisser? J'ai dit, va de l'avant. J'ai écouté les enseignements de Michel et j'ai mis ça en pratique.
Amen.
Toutes les enseignements que Michel a eu à faire, j'ai tout mémorisé. Et voilà pourquoi aujourd'hui je suis là. C'est la bénédiction.
Amen.
Et sincèrement dit, je suis très reconnaissante avec Michel et avec Dieu et avec vous. Merci beaucoup une fois de plus. Que Dieu vous bénisse.
Amen.
Amen.
Voilà. Merci beaucoup.
Okay. Il est très modeste, parce que il est très modeste, je vous assure, parce qu'il fait un travail extraordinaire. Et, c'est vraiment très, 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 très agréable de travailler avec lui. Il est toujours très discret. Non, c'est vraiment un homme de Dieu. Et il ira loin, je suis sûr, il ira loin.
Merci.
La France, c'est le premier pays que tu visites, mais tu vas en visiter encore beaucoup d'autres. Merci. Et comme Nicolas, un jour, tu en auras marre de prendre l'avion.
Merci beaucoup.
Donc, je voudrais...
Amen. Amen.
Je voudrais dire aussi à toutes les mauvaises langues qui disent la dîme, Michel Janton, il prend la dîme et puis il s'enrichit avec. C'est pas vrai. C'est vos dîmes qui ont fait qu'il peut être là ce matin et que il a pu déjà visiter dans Paris et tout ça et que nous allons rencontrer des personnes pour pouvoir faire encore un peu de l'humanitaire et tout. Nous ne nous servons pas de la dîme pour nous acheter des Rolex comme disent les sales langues. Que Dieu ne vous bénisse pas pour ces mauvaises paroles que vous avez dites. Repentez-vous et Dieu vous bénira. Amen.
Et c'est une vérité palpable.
C'est vrai.
Voilà. C'est à cause de vos dîmes que je suis là.
Voilà. Gloire à Dieu.
Merci beaucoup.
Gloire à Dieu. Alléluia. Fallait que je le dise quand même. C'est voilà. Je suis comme ça. Heureusement, il y en a. Comme Nicolas Savadogo, il n'y en a qu'un. Heureusement. Et Michel Janton, il n'y en a qu'un aussi. Je disais hier soir, s'il y avait un deuxième. Si je rencontre un deuxième Michel Janton, je le tue pour rester tout seul. Voilà.
Ça va tout le monde ?
Oui.
Et vous aurez l'occasion de parler avec lui. Là, il va rester une semaine avec nous. Après, il s'en va à Paris chez des amis à lui qui vivent du Burkina, mais qui vivent à Paris et qui veulent le revoir, qui sont tout contents de le retrouver. Et puis ensuite, il part sur Lugano. Voilà, ça commence. L'Italie maintenant, la Suisse, la France, la Suisse, il va voir la différence. C'est bien, là-bas il y a du fromage. Je dis ça pour le charrier parce que pour lui c'est encore un peu difficile le fromage. C'est que la première fois, peut-être au bout de 10 fois, il va aimer le camembert. Nicolas, il aime toujours pas. Bien, écoutez, ce matin nous allons ouvrir nos Bibles. Dans Matthieu chapitre 25, je pense que vous avez tous écouté la prédication que je vous ai apporté vendredi, et là ça va être la suite. Matthieu 25, on va prendre la deuxième parabole, c'est celle des serviteurs et des talents. Matthieu 25, 14, 30, je lis. Donc vous vous rappelez que Jésus parle de toute l'histoire, de ce qui va se passer dans le monde jusqu'à son retour, au moment où il vient pour juger. Et quand il dit, voilà, je viens pour juger, il dit, alors il en sera comme de 10 vierges. Donc, les 10 vierges, ça ne nous concerne pas. Ça concerne les gens qui passeront par la grande tribulation. La parabole des talents, c'est la même chose. Ça ne nous concerne pas. On peut en tirer une morale, mais ça ne nous concerne pas en réalité, historiquement. Ça concerne ceux qui seront dans la grande tribulation. Mais il y a déjà des mauvais serviteurs, il y a déjà des bons serviteurs aujourd'hui, avec des talents qu'ils font valoir ou pas. Mais bon, voilà, il faut comprendre les choses telles que Jésus les a dites. Donc, je commence ma lecture. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et il gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Vous voyez ? Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha et en apporta 5 autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent et voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'avais remis 2 sacs d'argent, voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre, le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Alors mes frères et sœurs, au prime abord, en lecture de base, on pourrait penser qu'on peut perdre son salut. Voilà un serviteur de Dieu qui est jeté dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Est-ce que ce mauvais serviteur est perdu parce qu'il n'a pas fait d'œuvre ? On pourrait le penser, quand on lit ça, on pourrait penser ça. Regardons ce serviteur qui n'a rien fait. Il sert Jésus, il est serviteur de Dieu. Chapitre 25, verset 4, il est serviteur de Dieu. Pas mal de gens servent Dieu, aujourd'hui encore, parce qu'ils le veulent. Ils veulent être des serviteurs de Dieu. Et Jésus les laisse faire. Jésus dit un jour, « Ceux qui ne sont pas contre moi sont pour moi, laissez-les faire. » Ça signifie, ils me servent, ben laissez-les faire. Laissez-les faire. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un sert Jésus que ses motivations sont bonnes, que ses motivations sont justes. On va lire Philippiens, chapitre 1, verset 15. Philippiens, chapitre 1, verset 15 à 18, écoutez ça. Ah, où est-ce que c'est ? C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que Dieu, que le Dieu de notre Père, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation et qu'il vous fasse, qu'il vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son... Non, excusez-moi, c'est pas ça, je me disais, j'étais en train de lire, mais c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Éphésiens, je suis dans Éphésiens, c'est pour ça. Philippiens 1, 15, voilà, j'y suis. Certains, il est vrai, c'est Paul qui parle, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité. Mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons ou que ce soit sincèrement, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul est en train de dire là ? Paul est en train de dire là qu'il y a des gens qui prêchent rien que pour embêter Paul, juste pour le niaxer, juste pour salir son ministère, juste pour le contredire, par un esprit, avec un esprit mauvais, des mauvaises intentions, avec un esprit de jalousie et toutes ces sortes de choses, par envie, par esprit de dispute, dit une autre version, étant animé d'un esprit de dispute, disent d'autres versions, avec des intentions qui ne sont pas pures. C'est arrivé à l'apôtre Paul, ça m'arrive à moi aussi et ça arrive à beaucoup d'autres serviteurs de Dieu. Il y a donc des gens qui prêchent, qui sont des serviteurs de Dieu, qui prêchent, mais avec des mauvaises intentions. Et même donc pour susciter des afflictions à ceux qui prêchent vraiment l'évangile de Dieu. Alors, voilà ce qui est un mauvais serviteur. Dieu lui donne un talent. Pourquoi ? Parce que Dieu donne à celui qui demande. Dieu donne à celui qui demande. Et en plus, il ne se repent pas ni de son appel, ni de ses dons. C'est-à-dire, moi, j'ai connu un homme en particulier à Paris, qui prêchait l'évangile de Jésus-Christ, et il avait des révélations et des guérisons, et c'était extraordinaire, son église était pleine, mais en sortant de là, il allait à Pigalle, et avec les petites femmes de Paris, voilà. Et puis après, il retournait après à l'église et il continuait à prêcher. Il avait, quand il était jeune converti, il avait demandé à Dieu, il a reçu et toute sa vie, ça a été comme ça. Et c'est qu'à la fin, quand il est devenu vieux, qu'il s'est repenti et qu'il a demandé pardon à Dieu, alors maintenant est-il sauvé, est-il pas sauvé, ça c'est pas moi qui juge. Mais c'est pour dire, j'ai vu des gens qui ont vraiment reçu quelque chose de Dieu et qui pourtant sont... Voilà, c'est pas tout à fait ça, hein. Dieu ne se repent pas de son appel et de ses dons, mais être appelé, ça signifie pas être élu. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Seuls les élus seront sauvés, pas ceux qui sont appelés, ceux qui sont élus seront sauvés. Le mauvais serviteur de Dieu n'a pas perdu son salut, le mauvais serviteur qu'on vient de voir dans Matthieu 25, il n'a pas perdu son salut, il n'a jamais été sauvé. C'est très différent. C'est très différent. Il dit, je vous ai jamais connu. Écoutez la parole de cet homme. Je savais que tu es un homme dur. Je savais que tu es injuste. Parce que c'est ça qu'il dit. Tu récoltes ou tu n'as pas moissonné. Ça veut dire quoi? Tu fous rien. Ça veut dire tu fous rien, mais tu fais quoi, mon Dieu? Tu fais quoi, Dieu? T'es parti, tu nous laisses tout faire, et puis après tu viens, et puis tu veux récolter, et puis t'es pas content s'il n'y a pas. C'est ça qu'il est en train de dire. T'es donc injuste, tu fous rien, tu moissonnes le travail des autres, hein, tu fais bosser les autres, et toi tu glandes dans ton bureau, tu fais rien. Vous voyez, l'amour qu'il avait pour Jésus, c'était en lui, ça c'est pas sorti par hasard, hein. C'est pas des paroles d'un homme de Dieu sauvé, ça. Pas du tout. Il n'a jamais été sauvé. Il a été appelé. Comment ça? Ben un jour, il est rentré dans une réunion. Quelqu'un a prêché l'évangile. Il a levé sa main parce qu'il était touché dans son cœur. Il était convaincu qu'il était pécheur. Il s'est repenti. Il s'est fait baptiser. Et puis, quelques temps après, il s'est dit, moi, ça m'embête de rester là comme ça. Je vais faire une école biblique. Et puis, il est devenu pasteur. Il a eu sa carte. Et puis, il prêche l'évangile, un espèce d'évangile bizarre. Puis voilà. Ou rien du tout, même. Il n'a jamais été sauvé, il a été appelé, mais il n'a pas été élu. Il a reçu un talent parce qu'il l'a demandé, mais il n'a pas d'amour pour Jésus. Il ne faut pas me dire qu'un homme qui parle comme ça, il a de l'amour pour Jésus. Il est serviteur de Dieu, il est serviteur de nom. Il a le nom de serviteur, il a la carte, il a l'étiquette de serviteur de Dieu. Mais il est méchant et il est paresseux. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le juge et il dit « tu es méchant et tu es paresseux ». Tu dis que je fous rien, c'est toi qui fous rien. Moi, tu es mon serviteur, tu dois m'obéir, tu dois faire ce que je dis. Tu n'as pas fait ce que je dis. Tu n'es pas perdu parce que tu ne fais pas ce que je dis, tu es perdu parce que tu n'as jamais été sauvé. Tu t'es infiltré là-dedans, mais tu n'as jamais été sauvé. C'est parce qu'il fait des méchancetés qu'il est perdu. C'est à cause de sa nature méchante et paresseuse. Jésus, lui, on voit, il est parti en voyage, verset 14, et il revient, verset 19, et il revient pour demander des comptes. Il y aura des comptes à la fin. Et si je prêche comme ça, c'est pour avertir, et j'espère, je sais, si je vous connais, ça va, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur Internet, ils ont besoin de se rappeler, de se souvenir, et je veux être cette voix qui dit, attention, à la fin, il va y avoir des comptes, on va vous demander des comptes à vous personnellement, vous pourrez dire n'importe quoi, si vous n'avez pas fait la volonté de Dieu, vous voyez, c'est difficile. Vous voyez que ça n'a rien à voir, cette parabole, avec l'enlèvement, c'est une parabole qui concerne ceux qui sont dans la grande tribulation, puisque quand Jésus vient, c'est pour juger. Vous voyez? Il juge qui? Ceux qui ont passé par la grande tribulation, comme on l'a vu vendredi passé, avec les vierges sages et les vierges folles, c'est la même chose. Les pasteurs qui prennent la parabole des vierges sages et des vierges folles pour faire peur aux chrétiens en leur disant « Préparez-vous, sinon vous ne serez pas enlevés », eh bien, ils prêchent un évangile tordu, ils se servent d'un passage dont ils ne devraient pas se servir. libre à eux. Ce ne sont pas des ouvriers, ce sont des bricoleurs. Les dix vierges, alors, à un moment donné, on voit, elles ont, quand elles sont sauvées, quand Jésus arrive, elles vont à sa rencontre, à la rencontre de l'époux, et elles rentrent dans la salle des noces. Alors, on pourrait penser, ah, mais alors c'est l'épouse. Non, c'est pas l'épouse. Savez-vous qui c'est? C'est l'ami, c'est les amis de l'épouse. C'est les amis de l'épouse. Vous avez jamais vu ça dans la Bible? Et dans la grande tribulation, comme je vous l'ai dit vendredi, il y a des vierges sages, des vierges folles. Les vierges folles sont ceux qui disent maître, maître, seigneur, seigneur, seigneur. Mais ils ne font pas ce que Jésus veut. Qu'est-ce que Jésus veut? Ah, on va le lire dans Matthieu 7, 21. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Beaucoup me diront ce jour-là, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal ou l'iniquité. Qu'est-ce que Dieu veut? Eh bien, qu'on commette, qu'on fasse ce qui est juste. Est-ce que c'est injuste de guérir les malades? Non, les vrais serviteurs de Dieu guérissent les malades, prophétisent et font toutes ces choses. Ils sont mandatés pour Dieu, par Dieu pour le faire, ils le font. Les mauvais serviteurs de Dieu, comme ils ont reçu un talent, ils peuvent le faire aussi, mais ils sont des mauvais serviteurs de Dieu. Jésus le dit, il dit, la seule œuvre que Dieu veut que vous fassiez, oh, il faut que je vous le lise, parce que la seule œuvre que Dieu veut que vous fassiez, il n'y a qu'une œuvre que Dieu veut que vous fassiez. Même à la limite, si vous ne prêchez jamais l'évangile, si vous n'imposez jamais des mains malades, si vous ne chassez jamais de démons, si vous avez fait l'œuvre de Dieu, cette œuvre qui est écrite là, vous êtes sauvés. Mais si vous guérissez les malades et toutes ces choses-là, sans avoir fait cette œuvre-là, ça ne veut pas dire que vous pouvez être perdu. Est-ce que vous me suivez? Je lis dans Jean 6, 24, 29. Les gens lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est la seule chose que Dieu vous demande de faire, de croire en celui que Dieu a envoyé. Qu'est-ce qu'on fait pour être sauvé? Croire en celui qu'il a envoyé. Vous pouvez prophétiser, guérir les malades, Dieu vous dira peut-être un jour, je ne vous ai jamais connu, parce qu'à la base, vous n'avez pas cru en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire en Jésus-Christ, qui est le seul sauveur, qui est, nous ne pouvons pas être sauvés par autre chose que son œuvre à la croix, et nous ne pouvons pas être sauvés par nos œuvres personnelles, parce qu'on a guéri des malades, ou parce qu'on a prophétisé, ou parce que sais-je, ou parce qu'on a aidé les grands-mères à traverser la route, ou parce qu'on a été visiter les malades, ou parce qu'on a été visiter les prisonniers, ou parce qu'on a fait de l'humanitaire. Ça, c'est zéro devant Dieu, ça compte pas pour être sauvé. Toutes ces œuvres, ça compte pour avoir des récompenses ou pas. Mais pour être sauvé, la seule œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, et ce qu'il a fait à la croix, ce salut parfait qu'il a acquis. On a mis des clous dans ses mains. On a mis une couronne d'épines dans son front. On a mis des clous dans ses pieds. On a percé son côté. Il a souffert pendant des heures sur cette croix. Avant ça, on l'avait fouetté. Tout ça pour votre salut, pour mon salut. Et vous, vous pensez que parce que vous faites quelques bonnes œuvres à gauche, à droite, ça peut rajouter à ça? Mais c'est un blasphème. C'est un total blasphème. On ne peut rien ajouter à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ sur la croix pour être sauvé. Absolument pas. Donc, prophétisez tant que vous voulez, ça ne garantit pas que vous êtes sauvé. Ce qui est important, c'est que vous ayez reçu celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, reçu son message et cru qu'il vous a sauvé et que ce n'est que par sa grâce à lui que vous pouvez être sauvé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu, le Père, a envoyé par amour. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça? Eh bien, que le talent qu'a reçu ce méchant serviteur, c'est le message du salut par la grâce. Il a entendu ça dans une église, ou il a lu ça dans un bouquin, je sais pas, enfin bon. Et puis il s'est senti appelé.
Et c'est la seule chose qu'il avait et qu'il devait partager pour que ça se multiplie. C'est quand on partage ce message que ça se multiplie, parce que d'autres personnes l'entendent, et puis Jésus rajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enterré ce talent. Il a enterré. C'est-à-dire qu'il y a des tas de chrétiens qui ont reçu que ça dans leur vie. Ils n'ont pas de don de guérison, ils n'ont pas de don de prophétie, ils n'ont pas de don de ceci ou de cela, de discernement des esprits, ils n'ont rien du tout. Mais ils ont ça, ils ont reçu ce cadeau de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font avec? Rien. Ils le cachent dans la terre, ils n'en parlent pas, ils l'enterrent, ils ne font rien avec. Ils ne font pas l'œuvre que Dieu attend d'eux, c'est-à-dire de croire et de continuer à croire. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils peuvent prophétiser, ok, chasser des démons, ok, guérir les malades, pas de problème, prêcher, mais ça vaut rien si ce talent-là, tu l'as enterré. Parce que je vais vous dire, en Afrique, il y a des gens qui pensent que je suis un guérisseur. Pas vrai, mon frère? Ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui refusent le message de Jésus, ils disent, Michel, il a un fluide, il a quelque chose. Tu te rappelles de ce type qui suivait chez le Blanc, là, je ne veux pas dire son nom, je ne veux pas le salir. Il disait que mon pouvoir, il était dans ma bague. Voilà, ceux qui ne veulent pas reconnaître que c'est Jésus qui travaille, mon Dieu, alors ils vont glorifier Jésus. Donc ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fait toujours avec Nicolas, avec Inoussa, c'est d'abord prêcher le salut par la grâce, être sûr que les gens ont bien compris, et je le répète jusqu'à ce que je suis sûr qu'ils ont bien compris, et quand ils ont bien compris, je dis alors repentez-vous d'avoir offensé Dieu en croyant que vous pouvez être sauvé avec vos gris-gris, vos machins, vos trucs, vos bonnes œuvres, et puis ils s'avancent, on prie pour eux, et après on prie pour les malades pour démontrer que ce qu'on a dit, c'est vrai que Dieu est avec nous pour manifester sa gloire. Et pourquoi est-ce que tous ces autres, ces faux serviteurs de Dieu qui prient pour les malades et qui ont des guérisons et qui prophétisent, etc., etc., pourquoi ça vaut rien? Parce qu'ils sont iniques. Iniques, ça veut dire injustes. Jésus dit, tu aurais au moins pu donner ce talent à un banquier, c'est-à-dire à quelqu'un d'intelligent, d'avisé, qui aurait pu le donner à d'autres, le faire, le multiplier. En faire bon usage, en prêchant le vrai évangile, mais non, tu l'as enterré, tu n'en parles pas, tu l'ôtes de la vue des gens, et les gens te voient toi, sur les estrades, avec le micro, là, tu fais ton Johnny Hallyday. Revenons à ce faux serviteur. Il dit à Jésus, je savais que tu es dur. En fait, c'est pas vraiment comme ça qu'ils le disent, les chrétiens, mais ils disent, la vie chrétienne, c'est dur. Jésus est exigeant, il y a tant de choses à faire. Il faut faire des jeûnes, il faut faire des prières, il faut aller au culte, il faut donner la dîme, il faut se lever tous les dimanches matin, il faut être gentil, il faut payer les impôts, il faut être honnête, il faut tendre la joue gauche, il faut tendre la joue droite. Il y a tellement de choses à faire, et puis il y en a encore qui ont rajouté, il faut acheter des bougies pour brûler, il faut faire des neuvaines, il faut faire je vous salue Marie, je vous salue Antoinette, je vous salue machin, machine, ça n'en finit pas, c'est dur, c'est compliqué. Alors comme c'est tellement dur, et puis j'ai tellement peur, n'est-ce pas, de faire une boulette et de me tromper, j'ai peur. Il dit, j'ai eu peur, tu es dur, j'ai eu peur. Les faux serviteurs de Dieu vivent dans la peur. La peur de perdre leur salut, alors de peur de perdre leur salut, ben ils enterrent leur talent et ils font peur aux autres. Ils prêchent un évangile qui fait peur. Moi j'en connais un à Paris aussi comme ça. Le Seigneur Jésus est au milieu de nous et il est en train de passer dans les rangs et il sait très bien les pensées que vous avez dans votre cœur. Oh, vous dites que vous êtes des chrétiens, mais vous avez péché. Vous irez dans l'enfer avec le diable. Je suis en train de l'imiter là. Ceux qui le connaissent, ils vont le reconnaître. Ils font peur aux autres. Attention, Jésus est dur. Il n'est pas juste. Il moissonne là où il n'a rien semé. Et Et si on ne fait pas les bonnes œuvres, on est perdu. Si on ne fait pas valoir nos talents, on est perdu. C'est grave. Ce sont tous ces bricoleurs de Dieu qui froncent les sourcils en vous annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ le Sauveur.
En fronçant les sourcils.
Quelle bizarre bonne nouvelle. Et ces faux serviteurs de Dieu ont l'air, oh, tellement plus sains que moi. Ah, vous ne les verrez jamais à l'Olympia à un concert de Sylvie Vartan. Ah, ça risque pas. Hein. Ça risque pas. C'est, voilà. Ou alors acheter des livres sur James Dean pour se renseigner sur sa vie, la biographie ou des choses comme ça. Hein, non, ils sont saints, ils ne font pas ça. Par contre, Sylvie Vartan, ils n'ont jamais parlé, ils n'ont jamais donné une Bible, ils n'ont jamais parlé avec elle au sujet du salut. Moi, oui. James Dean, il est mort. Mais comme j'aime bien cet acteur, je suis allé jusqu'aux États-Unis avec notre frère Dominique. On a rencontré sa famille là-bas, on a parlé, on a prié ensemble. En fait, j'ai appris que toute sa famille, ce sont des chrétiens évangéliques. Et on a passé un moment magnifique, on a pu rendre témoignage. Même comme une femme nous traduisait, parce que le cousin de James Dean ne parle pas français. Alors cette femme nous traduisait. C'était une institutrice, et alors elle nous a dit « Oh, mais c'est formidable, est-ce que vous pourriez venir parler à mes élèves ? C'est une prof de français. » Donc on est allé, on a pu rendre témoignage dans l'école. « C'est pas vrai, Dominique ? » ?»« Ah, James Dean, tu parles tout le temps de James Dean. » »« Oui, mais je fais quelque chose avec. » »« Tout me sert pour prêcher l'Évangile. » »« Amen. » Mais non, eux, ils ont pas d'idole, eux, hein. J'en connais même qui disent qu'il faut enlever les photos des enfants et des petits-enfants parce que c'est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas se faire d'image. Donc ça ne va pas à la tête. Ils font peur à leur propre famille. J'en connais de ces serviteurs de Dieu qui vous prêchent la date du retour de Jésus et des machins comme ça, et des trucs tout faux. Et leur femme les a quittés. Alors ils se sentent persécutés, mais ce n'est pas parce qu'ils sont persécutés, c'est parce que c'est des malades. Ou d'autres qui ont leur épouse qui sont en dépression. Et qui en parlent même sur YouTube, qui expliquent. C'est grave, c'est grave. Ils font peur aux gens. En leur disant qu'ils peuvent perdre leur salut. Comme l'ouvrier de cette parabole. Quand ils prêchent, ce n'est pas l'Évangile. C'est comme s'ils ne prêchaient pas du tout. Personne ne se convertit avec un message qui fait peur. Ça n'existe pas. Ceux qui se convertissent réellement, ils se convertissent parce qu'ils découvrent l'amour de Jésus-Christ qui pardonne leurs péchés, tous leurs péchés. Ceux qui se convertissent réellement, ils se convertissent parce qu'ils entendent la bonne nouvelle du salut par la grâce, que Dieu les aime tellement qu'il leur a donné son Fils afin que son Fils meure à leur place, et ils disent oh, parce qu'ils se sentent pécheurs, convaincus par le Saint-Esprit. Ils sont convaincus de péché par le Saint-Esprit. Ils sont convaincus de jugement et ils apprennent que le jugement est tombé sur Jésus, qui ne tombera jamais sur eux, et de justice, c'est-à-dire le Saint-Esprit les convainc qu'ils sont, que la justice de Dieu est mise sur leur compte. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Mais se convertir parce qu'on a peur d'aller en enfer, c'est des fausses conversions. Des fausses conversions. À cause d'un faux évangile prêché par des faux serviteurs de Dieu, des bricoleurs. Qui ne perdront pas leur salut, n'ont jamais été sauvés. Eux, ils prêchent la loi, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela pour être sauvé. Et nous savons tous ce que dit la loi. Qu'est-ce qu'elle dit la loi ? Ce qu'elle dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. C'est-à-dire ces gens-là, ils sont sous la loi, puisqu'ils disent que c'est par les œuvres qu'on peut être sauvé. Jésus est notre sauveur, mais on doit rajouter des œuvres. La loi, elle parle à ceux qui sont sous la loi afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ça, c'est Romains chapitre 3, 19, 20. Moi, la loi, elle ne me parle pas. Ça ne veut pas dire maintenant que parce que la loi ne me parle pas, que je vais me permettre de faire du mal. Non ? L'apôtre Paul le dit, ne profitons pas de cette loi de liberté en Jésus-Christ pour pécher. Parce que vous avez des tordus aussi, hein. Et Paul continue disant, personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, 20.
La loi nous révèle le péché. Si la loi ne dit pas, ne touche pas,
ben tu peux toucher, parce que c'est pas, il n'y a pas de loi qui dit ne touche pas. Et tu peux toucher, et ça n'est pas péché. Mais si la loi dit touche pas, à partir du moment où elle dit touche pas, quand tu touches, c'est péché. Donc la loi te révèle ton péché, mais elle ne t'amène pas à Dieu. Pour pouvoir être sauvé, il faut d'autres lois. Quelles lois? Les lois sacrificielles, c'est-à-dire aller brûler des moutons, des colombes, des veaux, des vaches et des cochons. Pardon, pardon, pas des cochons. Vous voyez? Mais nous n'avons plus à faire des sacrifices pour nos péchés que la loi nous révèle, parce que le grand sacrifice a été fait par Jésus. Il suffit que nous y croyons. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que le Père a envoyé. Amen. Mais quand c'est qu'ils vont comprendre? Que fait ce méchant serviteur de Dieu? Il prêche un faux évangile qui révèle le péché aux gens. Et il leur dit, faites le bien et vous serez sauvés par Jésus le Sauveur. Mais qu'est-ce qu'ils sont tordus. On ne peut pas être justifié par la loi, c'est impossible. C'est pourquoi Paul continue en disant, mais c'est dans la Bible, hein, au verset 21, Romains 3, 21, il dit, mais maintenant... C'est-à-dire avant, il n'y avait que la loi, avant Jésus, il n'y avait que la loi, c'est-à-dire voilà, la loi qui te dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, et si tu as fait ces péchés maintenant, il faut que tu obéisses à la loi sacrificielle, c'est-à-dire pour tel péché, tu dois offrir tel sacrifice, maintenant c'est fini ça. Il dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, verset 21, sans la loi, pas de loi à observer, pas à observer de loi pour être justifié. Ce temps est fini. Maintenant, dit Paul, sans la loi est manifestée la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. C'est dans Romains 3, 21, 22. Alors vous voyez, la parabole des 10 vierges concerne les gens qui vivent pendant la grande tribulation. Je vous l'ai démontré vendredi passé. Et celle de ces serviteurs de Dieu, là aussi. Et à la fin de Matthieu 25, on a la preuve. Parce que lorsque les cinq folles n'ont jamais été sauvées parce qu'elles misaient sur leurs œuvres, comme je vous l'ai montré vendredi passé, pour être sauvé, et le méchant serviteur de Dieu n'a jamais été sauvé. Il a été appelé, mais il n'était pas élu. Il était serviteur de Dieu parce qu'il voulait bien servir Dieu, et Dieu laisse tout le monde servir Dieu. N'importe quel clown, qui, je ne veux pas dire de nom, hein, mais on en connaît un, tu te rappelles, Inoussa Ouagadougou, un fou enragé.
Ah oui.
On en a parlé encore hier. Il n'y a pas longtemps, là, il y avait une dame dans son église. Et il croyait qu'elle était une sorcière, il lui a dit « Vous sortez de mon église ». Elle n'a pas voulu, il était chercher un fusil. Il a dû aller en prison, parce qu'elle a porté plainte. Il a tiré en l'air comme ça, mais c'était terrible. Alors il est allé en prison et c'est Nicolas qui l'a sorti de là. N'importe qui. Alors, ils ne sont pas tous aussi dingos, mais il y en a quand même pas mal, qui ont une sacrée couche, hein. Cet homme-là n'a pas perdu son salut, n'a jamais été sauvé. Je ne parle pas de celui de Ouaga, je parle de celui de la Bible, là. Hein. Alors, d'après la suite de ce que Jésus dit dans Matthieu 25, on le comprend. D'un côté, il y a les brebis, et d'un autre côté, il y a les boucs. C'est-à-dire, les vierges folles sont des boucs, et les boucs ne deviennent jamais des brebis. Même avec un miracle, ça n'existe pas. On étudiera ça vendredi prochain, parce que là aussi, ce texte, quand on le prend hors contexte, il semble qu'on peut être sauvé par les œuvres. Parce que c'est dans ce texte qu'il est dit, « Oui, j'étais malade, t'es pas venu me voir, j'étais en prison, t'es pas venu me voir, j'avais faim, tu m'as pas donné à manger. » Les gens se disent, « Ah, tu vois qu'il faut faire les œuvres pour être sauvé. » Non, c'est faux. Je vous le prouverai bibliquement. Il n'en est rien. Alors que Dieu éclaire ceux qui doivent être éclairés, et puis les autres, ben, ma foi, prier, demander à Dieu, ou renoncer, rejeter tout ça. Et une fois éclairés, sortez des églises qui prêchent le faux évangile. Sortez du milieu d'eux, sortez de là. C'est un faux évangile. Et si vous êtes un prédicateur du faux évangile, repentez-vous si c'est possible. Repentez-vous si c'est possible. Et changez de message ou taisez-vous, allez bosser à l'usine. Ce serait peut-être beaucoup mieux. En tout cas, pendant un temps, faites un break et puis allez bosser à l'usine. Ça vous montrera un peu ce que c'est la vraie vie. Et puis après, corrigez votre message, demandez pardon au peuple de Dieu et puis revenez et prêchez le vrai évangile. On a besoin de personnes, la moisson est grande, mais s'il vous plaît, prêchez le vrai évangile du salut par la grâce uniquement. Amen. Merci Seigneur, veuillez bénir ces paroles et permettre que ceux qui les ont écoutées les comprennent et se mettent à être véritablement des bons serviteurs, qui font valoir leur talent avec amour et dévouement. Je te remercie Jésus. Amen. Amen. Les musiciens s'approchent.